réplique La vie avec un chien avec Claudie Hunzinger et Cédric Sapin de Four. Certains auditeurs jugeront peut-être futile, ridicule, voire inconvenant le thème de cette émission dans une période agitée par les casseroles de la révolte et tourmentée par tant de sujets graves. Je dirais pour ma défense que j'ai lu avec émerveillement le livre de Claudie Hunzinger, Un chien à ma table, et celui de Cédric Sapin de Four, Son odeur après la pluie. J'y ai appris en effet que les chiens, ces animaux domestiques, avaient quelque chose à nous apprendre et qu'il était utile, sinon même salutaire, de faire avec eux un pas de côté. Mais je généralise trop vite. Il s'agit ici de littérature et toute littérature digne de ce nom est fondée sur l'individu. Je vais donc demander pour commencer à Claudie Hunzinger et à Cédric Sapin de Four de faire les présentations. Qui est le chien d'un chien à ma table et comment la narratrice l'a-t-elle rencontré, Claudie Hunzinger?
Avant de venir à Yes, le personnage de Un chien à ma table, il me semble qu'il faut que je revienne d'abord beaucoup plus loin, en amont, à mes 4 ans, à mes 5 ans, quand, à cet âge-là, j'étais un petit chien. J'ai d'abord été un petit chien avant d'être une petite fille. Et ce petit chien que j'étais était en rupture avec ma famille. Il était rudoyé, il était parfois un peu tabassé. Il tirait la langue à l'école, il mordait ses petits camarades. Et je crois que j'ai appris ces façons-là, cette façon-là de quitter le groupe des humains, à partir sans doute des manières d'un petit chien qui était dans la famille, mais dont je ne me souviens pas. Mais je sais qu'on me disait, tu vas dehors, on te met à la porte, comme un petit chien. Et ce petit chien de mon enfance m'avait appris à prendre la porte et quitter les humains. Bien plus tard, il a fallu que je passe par d'autres chiens, les chiens qui appartenaient plutôt à mon compagnon, qui étaient des chiens avec un métier, de nobles chiens, des chiens de berger, qui avaient un métier, et qui n'étaient pas les miens. Jusqu'à ce que je découvre, à 80 ans, une petite chienne qui arrive et qui a été la mienne. Et ça a tout changé.
Elle arrive et, d'une certaine manière, elle vous demande de l'aide, ou elle demande de l'aide à la narratrice, puisque cette chienne a été une chienne...
Elle vient de la société.
...violentée.
Elle vient de l'autre monde. Voilà. Elle vient du hors-champ, de là où habite la narratrice.
Oui.
Et de là où j'habite aussi.
Il y a des traces de coups sur son corps.
Oui.
Et voilà. Donc, la narratrice la recueille.
La recueille, la soigne et la nomme.
Vous la nommez, ou la narratrice la nomme Yes. Alors, nous parlerons de ce nom tout de suite, parce que je trouve ce choix extraordinaire. Je trouve que ce choix donne énormément à penser. Mais avant cela, je me tourne vers Cédric Sapin de Four et je lui demande, voilà, là ce n'est pas un roman, Cédric Sapin de Four, donc, vous avez rencontré dans des conditions particulières ce chien. Quelles sont ses conditions et quel est ce chien ?
Cela me réjouit que l'on débute cet entretien en parlant et en incarnant, et en parlant d'un individu. Et que, immédiatement, on évite ce que je considère comme un écueil, qui est celui de la simplification conceptuelle, de l'enfermement, voire même d'une forme de répression. On aurait pu parler des chiens, on aurait pu même parler de l'animal, et là, nous débutons cette discussion en parlant du bac, qui est un être qui était, puisqu'il est mort, qui était un être vivant, bien vivant, un individu doté d'une vie psychique profonde, d'une intériorité. C'était le chien rassembleur, et là on se retrouve, C'était le chien rassembleur de tous les chiens que j'avais pu croiser dans mon existence, qui n'avaient jamais, jamais été les miens. Il s'agissait toujours des chiens des autres, des chiens de la famille, des chiens des amis, des chiens des voisins, des chiens de passage. Je me rappelle qu'enfant, pour moi, la définition de l'accès à l'âge adulte, c'était notamment la possibilité de faire le choix de cette compagnie. Et vraiment, je me retrouve dans vos propos, Claudie, parce que vraiment, c'est une concentration de toutes les rencontres que j'avais pu éprouver auparavant.
Alors là, c'est une rencontre, si j'ose dire, sur petite annonce. Vous avez découvert une annonce dans un café, le Penalty, et vous aviez eu un chien auparavant, et là, vous avez dit que vous étiez prêt à aimer à nouveau, et c'est en effet un magnifique bouvier bernois qui va accompagner votre vie pendant plusieurs années. Mais venons-en au nom, parce que c'est l'homme qui nomme. C'est le privilège humain. Et là, c'est Yes. Quel sens pour vous? Et c'est Ubac pour Cédric de Pernafaux. Et donc, pourquoi ce nom, Yes?
C'est un nom qui m'est venu immédiatement quand cette petite chienne est arrivée dans le livre. C'est romanesque, c'est oui. Une fiction. En même temps, je m'appuie énormément sur la façon empirique que j'ai de vivre et d'écrire. Donc cette petite chienne est arrivée, je l'ai appelée Yes, parce qu'elle était mal en point. Elle demandait de l'aide. Elle s'était mise sur le dos. Elle avait révélé qu'elle était une femelle, une chienne. Donc ce yes peut se prendre de différentes façons. C'est à la fois le yes de la narratrice, oui, oui c'est toi, oui je te réponds, oui, oui je te prends, oui on va faire amitié. Et puis c'est aussi le yes, ce yes si féminin à la vie.
Mais oui, c'est ça qui m'a beaucoup ému. Et j'ai pensé, en vous lisant, Claudine Zinger, un texte magnifique de Chesterton, un chapitre de son livre Orthodoxie. Drapeau du monde. Il parle de la loyauté primordiale envers les choses et il ajoute « Avant tout acte de réforme cosmique, il faut prêter un serment d'allégeance cosmique. » Et Camus, Albert Camus, dans « L'homme révolté », ouvrage très injustement méprisé par les philosophes professionnels, dit un peu la même chose. Le nom de la révolte doit reposer sur un oui préalable, sinon la révolte tombe dans le nihilisme et le terrorisme. Et le yes, c'est un peu ça, c'est le oui des chiens, de ce chien en tout cas, et sans doute aussi du Bac, on le verra tout de suite, le oui au dehors, le oui au monde, le oui à la vie. Et si les chiens ont quelque chose à nous apprendre, c'est justement dans cette espèce de oui primordial qu'il ne faut jamais oublier, aussi révolté qu'on soit, et même pour légitimer la révolte. Claudie Zinger, vous êtes d'accord avec ça?
Ah, tout à fait.
Ah bon?
Voilà, c'est le sens du livre.
Ah bon.
Ce yes est inaugural. Oui.
Yes inaugural, le oui inaugural, voilà, oui. Le mot, l'adjectif est juste. Vous, c'est Ubac, très beau nom d'ailleurs, mais pourquoi? Il y avait d'abord une contrainte dont il faut nous parler, Cédric Sapin de Four.
C'est assez vertigineux de donner un nom, mais c'est ainsi, il faut le faire ou ne pas le faire, mais... Dans notre monde, dans notre société, c'est aussi comme ça que l'on est. On est lorsque la vie apparaît et on est d'être baptisé d'un nom. Je me souviens avoir eu la tentation de ne pas le nommer, certainement pour échapper à ses codes, pour échapper à ses attentes, pour échapper à ses prescriptions et peut-être pour déclencher une histoire singulière. Mais très vite, cette idée est partie. Comme vous le dites, la contrainte, paradoxalement, elle est facilitatrice, puisque donner un nom, c'est immense. Il faut mettre un peu de soi, il faut mettre un peu de ses attentes, il faut mettre un peu de ses peurs. Moi, je n'ai pas eu une réaction spontanée. Je n'ai pas eu un yes comme ça qui est venu à moi. J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup raturé, j'ai attendu, j'ai fait en sorte que le cortex range les dossiers. Ça a été un long périple. Pour
mais,
lui trouver son
mais,
nom.
Et la contrainte, vous le dites, c'est que la Société Centrale Canine associe à chaque année une première lettre de nom.
Oui.
Et donc c'était les U, il fallait trouver c'était un nom en U.
C'était les U, mais on peut s'en fiche. Et moi j'aurais adoré en fait ne pas me plier à ça. Oh, qu'est-ce que j'ai été déçu de me plier comme ça aux attentes.
Mais pourquoi enfin, la poésie vient des contraintes. Et c'est grâce à cette contrainte que vous avez trouvé ce nom que je trouve magnifique, Ubac.
C'est exactement donc, par cette martingale-là.
Il faut féliciter de cette contrainte.
Je m'en félicite. Bon, et, je vous remercie, et je vous remercie de vos félicitations pour ce choix. Oui, le U resserre les possibles. Et j'ai une histoire personnelle qui est très liée à la montagne, à la pratique de la montagne, mais au fait d'éprouver la montagne. Et ce versant qui est à l'abri du soleil et que chez moi on appelle l'envers, qu'on appelle le revers, mais alors pour le coup on s'éloigne du U, on l'appelle aussi l'Ubac. Souvenir d'écoliers, on était tous les uns les autres à s'arracher les cheveux pour savoir s'il s'agissait de l'Adré ou de l'Ubac.
Et oui, c'est les deux versants.
Ce sont les deux versants. Et je trouve maintenant, je trouvais déjà au moment où j'ai partagé ma vie avec Ubac, c'était un nom qui lui allait merveilleusement bien, parce que c'est un versant où l'on se tapit, où l'on observe le monde sans être vu, l'invisibilité, mais où on ne refuse pas les clartés du monde. Elles sont juste en face, elles sont juste là, on les attrape. Et l'histoire de l'Alpe aussi fait une grande place à ces terres, à l'ombre. On mettait les cultures au soleil, on vivait à l'ombre, on donnait la chance à la vie. Et également, mon passé de pratiquant de montagne, il y a aussi toute la bravoure qui est associée aux faces cachées du soleil où l'on peut pratiquer, où l'on peut s'élever. Donc tout ça, évidemment, je ne l'ai pas construit comme ça au moment du baptême du bac. C'était beaucoup plus pragmatique que cela. Moi, il me fallait aussi un nom qui sonne, un nom qui claque, parce que je savais d'ores et déjà qu'il allait avoir une vie indisciplinée, inconvenante, qu'il fallait que, certainement, j'allais devoir le rappeler sans cesse au milieu de parc. Et là, on doit éliminer tous nos jolis noms à 12 syllabes. Il faut quelque chose qui percute.
Oui, et donc, d'ailleurs, vous avez pensé à Utopie à un moment donné, mais je trouve que Ubac est un bien meilleur choix.
Mais oui, hein, mais comme je le dis dans le livre...
Parce que ce n'est pas un concept,
Ubac. Non, ce n'est pas un concept. Et puis, comme je le dis et je le répète, Utopie, comme toutes les promesses, c'est un nom de fille.
Ou d'Alice. Ben
oui.
Mais alors, du nom, venons-en au titre, Claudie Hutzinger, Un chien à ma table. On pense évidemment au livre de Jeanne Frame. Mais d'un autre côté, cette expérience, c'est un peu le contraire. C'est pour vous, comme pour Cédric Sapin-Defour, le fait de vivre à hauteur de chien. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait le chien qui est à votre table, c'est vous qui vous essayez par terre avec le chien.
Dans un premier temps, parce que oui, en effet, la narratrice, comme moi-même, nous avons 80 ans. Et l'arrivée de ce petit chien, de cette chienne, a tout à coup bousculé la vie. Elle a mis la vie en mouvement. Elle a sorti la narratrice, elle l'a tirée dehors, elle lui a réappris à marcher. Et oui, c'est on pourrait penser que ça se passe seulement là. Mais ça ne s'est pas passé seulement là avec ce chien, pas du tout. Parce que il se trouve, eh bien voilà, que je suis, je ne sais pas absolument comment dire, je suis écrivain.e, écrivaine.
Oui, enfin, en même temps,
et que l'arrivée d'un chien...
Brigitte Fontaine, c'est merveilleux. On me dit écrivaine, je tue.
Oui.
Vous ne tuez pas, mais vous la citez.
Oui, je la cite.
C'est déjà ça. Presque bien. Il y a une telle tentative de meurtre
dont je peux
vous créditer.
Donc, elle est écrivain. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue toujours entre le chien qui est là et l'être humain qui est là et qui a son métier et qui a sa vie. Alors la vie de cette narratrice, c'est une vie d'écrivain, elle est dans la nature, elle est plutôt tentée par la sauvagerie, elle est plutôt tentée, elle aurait volontiers commencé un livre en s'intéressant au renard. Or il n'y a pas plus anarchiste et presque anti-humaniste qu'un renard, à part le renard du roman de renard. Voilà, oui. Donc elle s'était intéressée totalement aux bordures du monde, au bord du monde. Ce petit chien qui arrive, qui s'appelle Yes, est un chien de berger. Ce qui n'est absolument pas anodin. Un chien de berger accompagne l'humanité depuis le début. Un chien de berger rassemble le troupeau. Cette narratrice est devenue pour Yes sa brebis préférée. Elle lui a dit, toi, je ne te lâcherai pas. Toi, je te surveillerai. Toi, tu vas rester pas très loin de la maison. Moi, je suis un chien domestiqué. J'appartiens, j'ai pris le bord des humains. Et toi, tu vas rester aussi du côté des humains. tu ne vas pas partir trop loin du côté de la sauvagerie. Tu ne vas pas t'intéresser fondamentalement aux onomatopées, aux liens qui nourrissent, les mots se nourrissent parfois des choses dans les onomatopées. Ils sont très proches, il n'y a pas de dysfonctionnement entre le langage et le monde. Les mots et le monde coïncident avec les onomatopées. Et elle voulait, la narratrice, aller de ce côté.
Le chien l'a retenue.
Et la chienne l'a retenue.
Et c'est une chienne
qui
le rapatrie.
Exactement.
Dans ce monde, parce que c'est quand même le
exactement.
Rôle des chiens, c'est ça. Animaux domestiques.
C'est ça. Les chiens.
Ils sont là pour nous et avec nous.
Ce sont de grands humanistes.
C'est ça.
Ce sont peut-être les derniers humanistes.
Vous êtes d'accord avec ça? Ça a été un grand humaniste, Hubach?
Évidemment, et je reviens au changement de niveau d'appréciation du monde. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose, en fait, pour voir le monde différemment. Il suffit de s'asseoir au sol, et tout d'un coup, la terre tourne autrement. Les êtres que nous croisons endossent de nouvelles perspectives. Même l'air se modifie. Et moi, j'ai passé une vie assis par terre, vraiment, à grands coups de frottement, à grands coups de percussion au sol, mais... Je crois que on en parlera certainement après, mais lorsque j'essaie de définir ce qui me manque aujourd'hui le plus de cette compagnie joyeuse, de cette compagnie humaniste, de cette compagnie silencieuse d'Avec Hubach, c'est d'être de nouveau debout.
Vous êtes à nouveau debout parce qu'il n'est plus là pour vous, pour vous mettre par terre, si j'ose dire.
Mais oui.
Pour mettre au sol.
J'ai adoré être mise au sol.
Eh oui.
J'ai adoré ça. Et il m'a fallu du temps... sans exagération, d'une sorte d'inadaptation au monde et aux dîners urbains. Et je ne suis pas là-dessus, mais il m'a fallu du temps pour ne plus ramper, pour ne plus m'asseoir par terre quand j'arrivais dans un lieu. Je trouvais que c'était ma place.
Ah ça, je vous comprends, c'est vrai. Je n'ai eu qu'une expérience avec un chien dans ma vie. J'ai eu un chien pendant quelques années. Mais avec ce chien qui était une chienne et d'autres chiens, ce que j'adorais, c'était faire le chien avec le chien. Les labradors, évidemment, je les regarde, ils viennent vers moi, mais je me mets très spontanément à leur hauteur. Faire le chien avec le chien, je comprends que c'est... Mais alors, sur l'humanisme du chien, quand même, ça je trouve c'est très important, il faut s'y arrêter. Et l'humanisme de ces deux chiens en particulier. J'ai lu il y a quelques années le livre extraordinaire de Marlène Haushofer, Le mur invisible. C'est après une catastrophe... peut-être d'origine nucléaire, une femme se retrouve en pleine forêt, séparée du reste du monde par un mur invisible. Et en sa compagnie, c'est deux ou trois animaux, dont un chien, le chien lynx. Et voilà ce qu'elle dit. Il lui était tout simplement impossible de résister à l'invitation d'être gay. Je n'ai jamais pu rester triste bien longtemps à ses côtés. J'avais presque honte de le voir si heureux de vivre avec moi. Je ne crois pas que les animaux sauvages puissent être heureux ou même joyeux quand ils sont adultes. C'est la vie avec les hommes qui a dû faire naître cette faculté chez les chiens. J'aimerais savoir pourquoi nous agissons sur eux comme une drogue. C'est peut-être le chien qui est responsable de la folie de grandeur de l'homme. Même à moi, il m'est arrivé de penser... que je devais avoir quelque chose de particulier quand je voyais lynx défaillir de joie en me regardant. Mais je n'avais rien d'exceptionnel, bien sûr. Lynx était tout simplement fou des hommes, comme tous les chiens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est ça, le humanisme.
Et même, il y a quelque chose qui m'a bouleversée dans la proximité de cette petite chienne avec laquelle je vis toujours, puisqu'elle est vivante. C'est que quand je m'intéresse justement aux onomatopées, au bruit du vent, au bruit des grillons, ça ne la touche pas. Mais si je mets en ce moment un CD, parce que je m'intéresse au clavier bien tempéré, si j'écoute une interprétation, par exemple de Richter, ou bien de Glenn Gould, ou bien de Piotr Andrzejewski, elle chante. Elle se met à chanter. C'est un chien qui chante. C'est un chien qui sait quelque chose qui lui est resté. C'est un chien qui sait que l'univers est fait, sans doute, de vibrations, d'ondes, de quelque chose d'ondulatoire, qui a une musique et une architecture du fond à laquelle elle a peut-être dès le départ été sensible, et elle chante.
Il chantait Ubarak.
Il vocalisait beaucoup. Il vocalisait beaucoup. On parle là de... En quelques minutes, on a parlé d'humanisme, on a parlé de joie. Il nous faut souvent, nous, les êtres humains, attendre que la vie se fragilise ou quasi disparaisse pour que l'on se connecte de nouveau à l'autre, à l'être, à l'homme, avec un grand H, ou à notre environnement, ou aux instants. Aux instants.
Ah, les instants, oui, c'est très important.
Et la compagnie d'un chien, elle irradie de la présence aux hommes, elle a de la présence à la minute. Et ça, c'est ravissant, c'est même bouleversant. La vie, alors, j'ai encore du mal à dire la vie d'un chien, je veux dire la vie du bac, parce qu'on ne cesse de dire depuis le début qu'ils méritent d'être considérés comme des individus avec leur originalité, leur altérité, leur individualité. Donc la vie du bac n'était que une succession, un chapelet d'apothéose du moment en apothéose du suivant, sans s'embarrasser d'être nostalgique de la minute précédente ou impatient ou craintif de la suivante. Et ça, cette centration sur l'instantané, c'est véritablement marqué au fer rouge dans ma façon d'appréhender le monde aujourd'hui. On est toujours à contre-temps, on ne cesse de le dire, on est soit un tempo en avance, soit un tempo en retard. On n'est pas là. Et moi, l'héritage du bac fait que, en ce moment même, je suis avec vous, véritablement, profondément, et pas ailleurs.
Ben, je dois donc remercier le bac de vous laisser ça en héritage. Je voudrais vous citer, en écho d'ailleurs avec Marlène Assauffer, « Le cœur d'un chien ne monte pas en puissance, il est en haut, gonflé, tout de suite et toujours. Il y a l'amour dès le réveil, c'est cette pleine vitalité qui sans doute l'épuise et raccourcit son passage. Depuis des semaines, nous vivons ces effusions de joie d'une intensité immédiate, renouvelée et qui ne décroît pas. » Est-ce que, évidemment, ça peut rendre fou aussi, comme dit Marlène Assauffer, cette espèce d'effusion continue, un amour, justement, qui ne connaît pas d'alternance.
Oui, c'est une sorte de frénésie de l'amour.
C'est une drogue.
Oui, exactement. Une frénésie de l'amour, on ne s'endort jamais, finalement. Et je crois que c'est la singularité de ce lien. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'oscillation. J'aime beaucoup l'idée de fluctuance, j'aime beaucoup l'idée de variation dans tout ce qui est autre que cette relation. Mais là, véritablement, j'ai appris à connaître la constance, et la constance dans la puissance et dans l'intensité de la démonstration de sentiments. Je ne sais pas, j'ignore ce qui fait que nous ne tenions pas ce rythme, en fait, dans notre relation les uns aux autres. Certainement que notre désir d'aimer est un moment embrumé, est un moment parasité, est un moment endormi. Mais j'envie la force, encore une fois, du bac, de ne pas fléchir, de ne jamais fléchir.
Oui, alors, d'un autre côté, ça je vous interroge à tous les deux, peut-être ne faut-il pas aller trop loin dans le franchissement de la barrière des espèces. Les chiens ont quelque chose à nous apprendre, mais est-ce que ce qu'on appelle l'antispécisme est la solution ? On parle d'antispécisme sur le modèle d'antiracisme pour effectivement en finir avec la discrimination sur la base de l'espèce. Mais est-ce que... Et vous citez d'ailleurs à plusieurs reprises Donna Haraway.
Oui, Donna Haraway.
Donna Haraway.
Mais je pourrais aussi me référer à Elisabeth Fontenay.
Oui, mais elle est spéciste.
Oui, oui, oui.
Elle est spéciste, c'est ça que je veux dire.
Tout en comprenant. Elle est tout en comprenant ce qui se passe de l'autre côté, mais avec des limites. Elle met des limites.
Et il y a des limites, et puis surtout, si vous voulez, c'est l'homme qui assume sa responsabilité envers les êtres qui sont à sa merci. On ne peut pas demander au lion de s'occuper de la gazelle. ni à la gazelle de dire faut faire attention au lion parce que c'est une espèce en voie de disparition. Non, c'est une prérogative humaine. Donc oui. Même l'amour des animaux oui. Nous distingue des animaux.
Ah, nous sommes ils différents.
Nous sommes différents et oui. C'est dans cette différence.
Et il faut rester dans cette différence.
Une relation peut
tout
se poser.
Fait. Tout à fait.
Vous êtes d'accord avec ça aussi?
C'est strictement la distinction qu'on peut faire entre le rapprochement et la confusion. Voilà.
C'est entre, ça. Voilà.
Entre l'altérité et l'individualité. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais prétendu que nous étions équivalents avec Ubac. Ce serait même, là encore une fois, ce serait une forme d'emprise intellectuelle et affective, à laquelle je me refuse. Mais à nous de distinguer ce qui est de l'ordre de la reconnaissance de l'identité de cet être vivant que l'on a en face de nous. Donc une forme d'acceptation de l'altérité, mais le refus par contre catégorique de considérer que nous sommes les mêmes.
Mais alors, nous ne sommes pas les mêmes, mais d'un autre côté, comme je le disais au début, les chiens ou certains chiens ont quelque chose à nous apprendre. Et dans votre livre, Cédric Sapin de Faux, vous dites par exemple, vivre en compagnie d'un animal, c'est prendre note que la Terre se divise en deux zones, où l'on peut caresser sa chair à la terre, où on l'a muselée d'asphalte. Et dans les villes, il faut beaucoup chercher. Donc d'une certaine manière, les chiens, ça peut être, excusez-moi l'expression qui a des connotations mauvaises, mais un véritable retour à la terre, mais au sens littéral du terme.
Oui, et c'est une compagnie aussi, moi qui me prétendais vraiment entretenir une relation de connexion vive, profonde, singulière avec la nature, comme le font tous les pratiquants de cette terminologie qui est détestable, que sont les activités de pleine nature, comme s'il y avait une nature pleine, comme s'il y avait une nature qui méritait davantage qu'une autre. Je pense que j'étais là-dedans. Je considérais que l'on entretenait une relation singulière avec la nature, davantage lorsque l'on était pendu dans la face nord des Grandes Jorasses que lorsque l'on se baladait dans un petit parc de ville. Et ça, une nouvelle fois, j'ai l'impression que je ne parle que de leçons, non pas de leçons, mais en tout cas d'éclairage qu'a pu me fournir Ubac. La compagnie de ce chien et de mes autres chiens m'a démontré que la nature était partout et qu'elle méritait partout que l'on s'y attarde. Et elle est peut-être beaucoup plus brave, beaucoup plus farouche, beaucoup plus résistante dans le petit parc de ville que j'ai croisé ce matin que dans sa forme facilement luxuriante, aisément épanouie que l'on peut voir dans les forêts primaires ou les choses comme ça. J'ai vraiment reçu de la part du Bac la conviction maintenant établie à vie que qui voit la nature la voit partout.
Qui voit la nature partout, mais un chien en ville est toujours un peu triste, parce que c'est toujours, comme vous le dites d'ailleurs, c'est la terre qu'il recherche. Ah, pas la nature, au sens un peu, en effet, mythique et touristique qu'on a voulu lui donner, mais la terre, au sens charnel.
Et surtout la liberté.
Et surtout la liberté, et le dehors.
Et surtout la liberté et le dehors.
Le dehors sans sélectionner.
Voilà. Évidemment, son cercle de... Son cercle d'épanouissement, son diamètre, sa superficie de réalisation, elle est supérieure lorsqu'il est au milieu des montagnes des Vosges ou du Beaufortin que dans la rue.
Alors maintenant, Claudine Hunzinger, je voudrais vous taquiner un tout petit peu. Parce que un chien à ma table, vous le dites, attention, c'est une chienne. Ne pas confondre. Et vous tissez, vous, justement, une communauté de destin entre cette chienne et la femme que vous êtes, et vous élargissez encore le cercle de la solidarité avec les enfants ou les adolescents, soudain plus lucides que nous le serions lui-même, devant la catastrophe qui est arrivée à notre planète. Voilà, quelque chose de terrible se passe, il y a la chienne, la femme.
Oui, il y a quelque chose de particulier. Elle a une place particulière.
C'est-à-dire
Eh bien, je pense que cela... J'ai compris quelque chose en réfléchissant à la place de ma mère, qui était une villageoise. Sa mère était la femme d'un instituteur, elle-même fille, petite fille d'instituteur. Ma mère avait donc cette place particulière dans un village où on était proche à la fois des jardins et des bêtes. Et c'est elle qui m'a enseigné à nommer les plantes, à nommer les herbes, à nommer les arbres, à nommer les bêtes. Donc j'ai appris quelque chose d'elle, sans doute par le métier aussi de ses parents, qui leur demandaient, les instituteurs avaient des herbiers, connaissaient le monde, les leçons de choses, ça existait. Et elle était donc très proche, cette grand-mère et ma mère, de ce que j'appelle la bordure du monde. Ce qui était laissé un peu de côté, qui n'était pas le centre du monde. Elle n'avait pas, elle, fait des études, ma grand-mère. Elle n'avait pas ouvert les dictionnaires. Donc, je pense qu'il y a, ce n'est pas du tout par essence, les femmes ne sont pas nées femmes par essence, mais par, elles ont cette place-là que leur a laissée et reléguée la société. Donc elles ont été plus proches des animaux, des enfants, des forêts, des jardins. Voilà, par culture. C'est une culture. Et qui m'a été transmise. Et je me sens un peu comme ma mère, c'est-à-dire à la fois des marges, de la bordure du monde. Il y a des tas de choses que je connais de la bordure du monde, cette affinité, cette immédiate familiarité avec les bêtes ou avec les plantes. Immédiate familiarité. Je suis chez moi, d'abord là chez moi. Et je ne suis pas la seule. Je pense à Rosa Luxembourg.
Oui, c'est vrai, là, vous avez tout à fait raison. Rosa Luxembourg, c'est extraordinaire.
Je pense à Rosa Luxembourg, oui. qui disait, qui a, en 1917, était en prison, a beaucoup écrit de lettres, et qui, dans ses lettres, parle de la mésange, oui. qui lui répondait, qui dit, cette mésange, moi, je voudrais qu'on inscrive sur ma tombe une seule chose. Tsui, tsui. Et je préfère ma mésange à tous mes camarades. Camarades à commencer. Voilà, il y a quelque chose là que j'ai retrouvé. Une sœur. Et c'est cette familiarité et cette presque osmose directe. On est de plein pied chez nous. On est de plein pied avec la mésange. Mais en même temps, c'est ça qui est peut-être très intéressant et qui pour moi est un grand luxe du destin. J'ai également été du centre, puisque je suis comme ma mère une fille des dictionnaires. Mais je n'admettrai pas que ce soit juste une culture, comme on dit aujourd'hui avec ce mot d'étudiant, phallo-logo-centré. Ah, et quel mot magnifique, compliqué mais magnifique, qui dit tout.
Et vous pensez qu'il dit tout?
Beaucoup, il dit beaucoup, il dit beaucoup.
Peut-être, mais nous n'allons pas nous aventurer sur ce terrain aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier Hubbach, il ne faut pas oublier les chiens, mais pourquoi ce sort aussi fait à côté des femmes, dont vous expliquez, évidemment, la communauté qu'elles pouvaient avoir avec les bêtes, pourquoi faire ce sort aux enfants et aux adolescents? Parce qu'il y a peut-être de moins en moins d'espèces, la mésange est menacée, et vous dites, les enfants et les adolescents s'en rendre compte, et vous citer, vous donner des noms, des prénoms, 12 ans, 8 ans, etc.
Autour de moi, oui.
Autour de vous, oui, d'accord. Mais deux choses. La planète est menacée.
Oui.
C'est vrai. Et notamment par les...
Leur futur.
Émissions de gaz à effet de serre. Mais le bilan carbone du numérique est désastreux. Et il faut apprendre la frugalité numérique. Mmh. Et ça, les enfants, ils ne sont pas dans la frugalité numérique. Ils ne sont jamais dans la frugalité, d'ailleurs. Mmh. Ils sont toujours dans le « tout est possible ». Donc, les limites, l'apprentissage limite ne nous viendra pas des enfants et des adolescents. Elle pourra être éventuellement enseignée aux enfants et aux adolescents. Et vous moquez d'un dessinateur qui critique...
Ah non, c'était pas très bien ce qu'il a fait.
Greta Thunberg. C'est assez drôle parce que moi, j'avais critiqué Greta Thunberg devant Plantu, il m'avait fait la leçon.
Ah oui.
Alors peut-être a-t-il entendu propres reproches, mais Greta Thunberg qui dit « Aoderio, à la terre entière », c'est un peu absurde parce que Greta Thunberg, on la décrochera jamais de son portable ou de son ordinateur, alors qu'on avons besoin, justement, face à ce qui se passe, d'enfants et d'adolescents déconnectés.
Oui,
et spontanément, nous-mêmes. Ils ne le sont pas.
Nous non plus.
Et nous alors, non plus. Enfin, moi,
même.
Oui, mais pas.
Alors
pas
même, là.
Alors même, non. Mais on n'est pas, sur notre portable.
Non.
Hein, oui. Donc, nous avons des micros, d'accord. Mais
oui.
Vous voyez bien que
oui.
Donc tabler sur les adolescents, c'est pas forcément un choix c'est légitime.
Oui, mais revigorant.
Mais
revigorant.
Alors, vous persistez. Alors,
je partage l'idée de ne pas être tout à fait désespéré. J'ai comme autre casquette que j'ai mis un petit peu au placard, mais que je reprends parfois, celle d'être un éducateur, d'être un enseignant.
Pourquoi vous l'avez mise au placard ? Vous n'enseignez plus en ce moment ?
Actuellement, non.
Ah bon ?
Actuellement, non. Mais j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec ces nouvelles générations dehors. Parce que la discipline que j'enseigne, qui est l'éducation physique, et sportif que j'enseignais, se passe majoritairement dehors, surtout dans mon territoire de montagne. On parle de l'hyperconnexion des jeunes, alors on s'éloigne un petit peu de l'animal, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il y a la relation aux éléments et au milieu. Et je ne suis pas tout à fait désespéré dans la mesure où j'ai vu quand même, et j'ai revu suffisamment de fois pour que ça commence à devenir quelque chose qui me permette d'espérer et qui est suffisamment conséquent. J'ai revu des enfants, des adolescents, poser leur portable dès lors qu'on les, pas confronte, mais qu'on leur offre et qu'on leur propose le spectacle de la nature, sa beauté et son satellite qui est la vulnérabilité et la fragilité. J'ai appris qu'il fallait se taire, j'ai appris qu'il fallait les prendre par la main, ne rien dire et leur proposer ce spectacle et surgissent des « qu'est-ce que c'est beau ?». Et quand on dit « qu'est-ce que c'est beau ?», on n'est pas tout à fait perdu.
On n'est pas tout à fait perdu, vous avez raison. Et en même temps, le cœur se serre quand on voit tant de maîtres de tous âges, notamment d'ailleurs des adolescents, promener leurs chiens, leur portable à la main ou en train de téléphoner. Et d'ailleurs, il arrive que le chien s'en rende compte et en soit un petit peu malheureux. Mais je rebondis sur ce thème de malheureux, Cédric Sapin-Defour, parce que votre livre est d'emblée mélancolique. Vous achetez Bach. Vous savez, vous pariez que vous allez nouer une relation très forte avec lui, ça se produit, mais tout de suite, vous vous dites, voilà, je le connais enfant, et il vieillira, et normalement, les parents n'enterrent pas les enfants, mais les maîtres enterrent les chiens, et l'éventualité, l'horizon de la mort du parc est présent dès les débuts du livre. Les visites chez le vétérinaire, les vétérinaires au début sont insouciantes, et puis après, l'angoisse vient, et avec l'angoisse, la mort, et son odeur après la pluie, c'est aussi la vie et la mort du bac. Cédric Sapin-Defour.
C'est là que l'on met le doigt sur cette résistance quand même profonde qui est la nôtre d'être dans l'instant. On parlait de l'instant tout à l'heure, mais dès le départ, on a quand même un bout de soi qui songe aux issues fâcheuses. Alors, s'abandonner à ne pas y penser ou s'échiner à ne faire qu'envisager, c'est une drôle de danse, la vie avec un animal dont on sait la fugacité de son passage sur notre terre. C'est une drôle de danse que de ne pas avoir ça en tête. Mais dès le départ d'une relation avec un chien, on sait que si la nature des choses fait son œuvre, et bien il y a un moment où on va devoir soit faire un trou dans la terre, soit se réfugier dans une pièce un petit peu sombre d'un cabinet vétérinaire où l'on chuchotera et où l'on se dira des banalités sur la vie qui sera mieux ainsi, sur la rémanence des bonheurs, sur vous verrez bien, après seuls les joies resteront. Est-ce que c'est un exercice imposé ? Je n'en sais rien. Mais il n'empêche que oui, toute relation, aussi joyeuse, aussi lumineuse, aussi prometteuse soit-elle, ne peut s'empêcher de charrier cette forme immédiate et anticipée de mélancolie.
Oui, Heidegger nous définit comme des êtres pour la mort, mais nous sommes aussi des êtres pour la mort ou vers la mort de ceux que nous aimons. Et le chien, sa mort est programmée. il est dans la nature qu'il meurt avant son maître, et en même temps, c'est contre nature, puisque ce maître l'a connu tout à fait enfant. Et puis, alors je pense à ce très beau passage de l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, la mort du chien Karénine. Et j'ai pensé à ce texte en vous lisant, Cédric Sapin de Four. Par rapport à l'homme, le chien n'a guère de privilèges, mais il en a un qui est appréciable. Dans son cas, l'euthanasie n'est pas interdite par la loi. L'animal a droit à une mort miséricordieuse. Il n'y a pas lieu ici de parler de l'euthanasie, mais cette idée de cette mort miséricordieuse, c'est un peu ce qui se passe aussi pour Ubach, très malade.
L'idée, vous l'avez dit, c'est de ne surtout pas tisser de parallèles hasardeux entre ce qu'il est possible de faire pour nous, les humains, et ce qu'il est envisageable de faire et pour les chiens, d'un point de vue légal, d'un point de vue technique, d'un point de vue moral. On pourrait se dire que la possibilité que l'on a, encore une fois, technique, morale, sociétale, légale, de donner fin à la vie d'un chien facilite la démarche. Là, encore une fois, je ne peux parler que de mon expérience personnelle, mais rien n'est facilité. Rien n'a été facilité pour moi, finalement, dans cette interrogation que l'on a du bon moment, dans cette interrogation que l'on a du bon geste, de ce statut que l'on va nécessairement endosser, qui est celui soit de geôlier à aller trop loin, soit de bourreau à déterminer la minute de la fin. Et il y a aussi, comme singularité autour de la mort et du travail du deuil du chien, le fait, on peut s'en fiche, on devrait s'en moquer même, mais que la société va regarder ça d'un œil un petit peu distant quand même. Et moi, j'arrête de m'excuser d'avoir été triste et d'être accablé par la mort d'un chien. Mais voyez-vous, quand vous êtes dans une rue et qu'on vous demande comment vous allez et que vous dites pas très très bien parce que mon chien est mort, au mieux, vous aurez une petite tape sur l'épaule, sinon une espèce de torrent de scepticisme, voire, une fois le dos tourné, de moquerie, sauf à croiser des gens de sa tribu. Et à ce moment-là, on parle le même langage et on va se prendre dans les bras, ou non, mais en tout cas, on va se regarder dans les yeux et on va se comprendre. On peut considérer que ce décalage-là, il est facilitant dans la mesure où il poursuit. Il participe, et il vient peut-être même finaliser cette sorte de repli du monde, cette bordure au sein de laquelle on vit. Mais il n'empêche, on a grandi au milieu des rites collectifs du deuil. Et lorsqu'ils ne sont pas là, eh bien, ça peut rendre la fin de l'histoire encore plus difficile.
Mais votre livre, entre autres mérites, nous donne à comprendre toute la force et donc toute la légitimité de ce chagrin. Vous pleurez à la mort du Bach, et d'une certaine manière, le lecteur est amené à pleurer avec vous. Et vous, Claudine Zillière, comment intégrez-vous, vous avez d'autres chiens, justement, cette éventualité, ce oui. destin-là.
Oui, j'ai un chien, j'ai aussi une ânesse qui est morte.
Ah oui, ça oui. c'est merveilleux d'ailleurs. Oui. La narratrice aussi, qui est très oui. proche de vous, oui. a une ânesse, Litanie.
Voilà,
et
Litanie.
Et partage son temps voilà. entre Litanie et Yes.
Et la rumeur qui sort, le parfum qui sort, la rumeur qui sort du parfum du poil d'une ânesse, comme celle du chien mouillé après la pluie, est aussi quelque chose qui dit, moi je pense que, j'ai toujours pensé que le parfum qu'émet le poil, le pelage d'une ânesse a quelque chose d'irrémédiable. Déjà, elle vous enseigne l'irrémédiable. Mais je prendrai la mort d'une autre façon. Je la prends d'une autre façon. Je la prends à la façon un peu de Nietzsche, qui dit que la mort est une espèce de vie, mais très rare.
Ça veut dire quoi ? Comment commenter cette phrase abyssale ?
Elle vous semble abyssale, c'est-à-dire que quelque chose, que rien ne meurt.
Vous pensez ça vraiment ?
Complètement.
Donc vous êtes assez sereine.
En paix.
Vous êtes en paix. Vous pensez que rien ne meurt ?
Non.
Moi je pense que...
Rien ne meurt. On est pris dans...
Le cycle de la vie.
Et puis dans une danse d'atomes, dans une danse... Si on regarde le télescope James Webb en ce moment, toutes ces constellations qu'il a, qui grouillent, ça grouille, grouille de beauté et de vie, de naissance et de mort. Je suis restée fascinée devant ces images.
Mais enfin,
et
ces images ne rendront pas Ubac à son maître.
Non.
Son maître s'en fout des atomes et
non,
moi avec
non,
lui.
Non, pas du tout. Non, parce que je pense que le fait de se sentir constitutif de quelque chose qui nous environne et qui justement est vibre et qui est toute architecture et constellation est sans cesse en train de se mouvoir, je suis peut-être pas tout à fait humaine.
Non, mais vous êtes... C'est une manière d'aborder les choses qui rappelle singulièrement Diderot. Hein. Diderot écrivait à sa maîtresse que peut-être, après leur mort, leurs atomes se mêleront. Quelque chose comme ça.
Oui, tout à fait.
C'est ça.
Oui.
Et
ce matérialisme enchanté,
oui. Exactement, dont parle Élisabeth de Fontenay, moi, oui. Moi je n'arrive pas à y adhérer.
Oui.
Parce que justement, je commençais par l'individu. Le cas particulier est celui-là. Disparaît. La mort est une interruption. Il y a le cycle de la vie, bien sûr, mais qui est obscène, parce qu'il ne s'interrompt jamais. On aimerait qu'il s'interrompt. On aimerait même que les gens portent le deuil avec vous, que la nature porte le deuil. Et ça n'arrive pas. Il n'y a pas de deuil dans la nature.
Et c'est ce que
je n'aime pas dans la nature.
Le temps de notre vie, il est là, et il est tellement intense et important grâce à cela.
Alors, j'aime beaucoup le titre de votre livre. Cédric Sapin de Four, son odeur après la pluie. C'est un très beau titre. Et d'autant plus que l'odeur, c'est pas tant l'odeur du chien d'abord, c'est le royaume du chien. Le chien vit, lui, au pays des odeurs. L'homme vit sous le régime, si on peut dire, de l'œil. C'est ce que dit d'ailleurs très bien Virginia Woolf dans sa biographie imaginaire du chien d'Elizabeth Browning et de Robert Browning, Flush. Elle dit que Flush, alors que Mrs. Browning était un œil, Flush était un nez. Alors qu'elle écrivait, il reniflait. Il se glissait partout, le nez collé au sol, près du sol, s'enivrant de ses essences, ou le nez au vent, porté par les effluves. Et c'est vrai, le chien est toujours très accaparé par ses promenades, mais parce que le sens par excellence du chien, c'est l'odorat.
Oui, et on parle bien d'odeur, on ne parle pas de parfum.
Oui, c'est ça.
On ne parle pas d'une construction qui pourrait être artificielle de cette compagnie olfactive, c'est natif, c'est originel, et dans la grande séparation, dans la grande déconnexion dont on parlait tout à l'heure, on voit bien que nous avons tendance à naviguer dans des sens qui sont maintenant très bornés, c'est-à-dire on ne veut plus d'odeurs nauséabondes, on ne veut que des parfums, on a privilégié la vue à tous les autres sens, au toucher. On parlait tout à l'heure de ces apprentissages que nous avons délaissés, de connaître les plantes, de connaître la rugosité des plantes, de reconnaître un arbre en se frottant à son écorce, etc. Tout ça, on l'a délaissé, on l'a laissé sur le bord du chemin. Et l'odeur, c'est le sens. De mon point de vue, de mon histoire, c'est le sens à mémoire. C'est le sens de la mémoire. C'est le sens qui tord les viscères lorsque Ubac ou un autre chien n'est plus là, parce qu'il y a cette odeur de traîne avec lui. Il est encore là, ça le maintient, mais ça ne nous fait prendre conscience que d'une chose, c'est qu'il n'est plus là, en tout cas que la source de l'odeur. Et la pluie, et c'est associé à la pluie, parce que nous avons passé le clair de notre temps dehors, au milieu des éléments.
Pour le chien, d'ailleurs, et ça vous le dites l'un et l'autre, il n'y a pas de mauvais temps. Le mauvais temps, c'est une invention humaine. Donc, le dehors l'attire, dans quelques circonstances que ce soit, et vous y allez l'un et l'autre avec lui.
Et l'odeur du chien mouillé fait partie de la première page.
Oui, c'est vrai. Absolument. C'est ce qui vous réunit, cette odeur de chien mouillé. Et donc, Cédric Sapin de Four, vous dites du bac, je t'ai regardé vivre et ta perception du monde a diffusé jusqu'à moi. Donc vous avez appris quelque chose. Et pour ce chagrin qui est le vôtre, vous avez une très belle phrase. Vous êtes mis à chercher partout ces yeux qui me cherchaient partout. Et ça a été une épreuve très, très douloureuse et dont nous prenons la mesure en lisant Son odeur après la pluie, donc votre livre, Cédric Sapin de Four, édité chez Stock. Claudine Zinger, vous avez publié Un chien à ma table. Ce roman est édité chez Grasset et il a obtenu, je le rappelle, le prix Femina. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Maï Tran. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.